Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
13h sur SBS French, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter le programme en français sur Radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat et nous allons passer une heure ensemble. On commence notre émission avec la rétrospective du jour. La rétrospective de ce samedi 18 janvier, on fait un bond en arrière de 18 ans, puisque le 18 janvier 2007, donc, eh bien, Jacques Chirac faisait entrer les Justes au Panthéon. On écoute Valentine Saboureau qui nous fait revivre cet hommage de la France à ceux qui ont sauvé des milliers de Juifs pendant l'occupation. Un récit illustré avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Le 18 janvier 2007, le président Jacques Chirac adresse l'hommage de la nation aux Justes de France et aux héros anonymes ayant sauvé des milliers de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. À cet effet, il les fait entrer symboliquement au Panthéon lors d'une cérémonie solennelle qui se déroule en présence de nombreux invités, dont Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. 13 ans auparavant, le même Jacques Chirac a déjà fait un premier pas historique lors des commémorations de la rafle du Vel'd'Hiv à Paris. Le 16 juillet 1995, il prononce en effet un discours resté fameux, reconnaissant officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs durant l'occupation. Sur 320 000 Juifs vivant en France à l'époque, 75 721 sont déportés, parmi lesquels seuls 2560 survivront.
Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Si les horreurs de la guerre sont dénoncées et reconnues, une autre facette de l'histoire va aussi être mise en avant, une facette plus lumineuse. Alors que les Juifs polonais, grecs ou hollandais ont disparu à 90 et 80%, ceux de France ont été touchés proportionnellement moins. Il y a eu en France, a souligné Simone Veil, elle-même ancienne rescapée des camps, une grande solidarité. Beaucoup d'enfants cachés qui, pour la plupart, ont été heureux. Beaucoup de gens très simples qui ont sauvé des vies. Parmi ces héros de l'ombre, issus de toutes les couches sociales et originaires des quatre coins du pays, il y a eu des cheminots, des fermiers, des secrétaires de mairie ou des religieux qui diront parfois n'avoir fait que leur devoir, quand bien même ils risquaient leur vie.
C'est le cas de Jeanne Brousse.
Je peux dire que c'est une vraie fausse carte, en ce sens qu'elle a été signée à la préfecture. Ce n'est pas une signature imitée, mais j'ai changé l'identité des personnes. Un nom typiquement juif, je le transformais. Dans ce cas, ça a été la famille Aron. J'ai donc appelé cette famille Caron en ajoutant simplement un C par avant, mais sur les documents authentiques.
Pour leur bravoure et leur humanité, certains recevront le titre de juste parmi les nations, la plus haute distinction civile attribuée par l'État hébreu à une personne non juive ayant risqué sa vie, sa liberté et sa sécurité pour sauver un ou plusieurs juifs de la mort ou de la déportation, sans rien attendre en retour. À la date du 18 janvier 2007, ils sont 2720 Français à en être détenteurs. C'est donc à eux et à tous les héros anonymes qui ont agi dans le même élan que la nation va rendre hommage sous la nef du Panthéon. Ce jour-là, ils sont 200 à être présents physiquement, grisonnants, souriants ou timides. D'autres ont leur visage affiché sur des photos, visibles dans une installation de la réalisatrice Agnès Varda. Dans la grande salle, des écrans diffusent deux films dont elle est aussi l'auteur. L'un est en couleur, l'autre en noir et blanc. L'image d'un grand arbre verdoyant est projetée entre les deux. L'ensemble vocal Accentus interprète figure humaine de Francis Poulenc sur les textes de Paul Éluard. La cérémonie commence à 18h. C'est Simone Veil, à l'origine de cette reconnaissance, soutenue immédiatement par le président, qui prend la parole en premier. Extrait.
Face au nazisme qui a cherché à rayer le peuple juif de l'histoire des hommes et à effacer toute trace des crimes perpétrés, face à ceux qui, aujourd'hui encore, nient les faits, la France s'honore, aujourd'hui, de graver de manière indélébile dans la pierre de son histoire nationale cette page de lumière dans la nuit de la Shoah.
Jacques Chirac s'exprime à son tour.
Les justes ont fait le choix de la fraternité et de la solidarité. Tous connaissaient les risques encourus, l'irruption brutale de la Gestapo, l'interrogation, la torture, parfois même la déportation et la mort. Certains furent reconnus justes parmi les nations. D'autres resteront anonymes. Ils incarnent l'essence même de l'homme, le libre arbitre. À tous, en ce lieu où elle honore ses grands hommes, la nation rend aujourd'hui le témoignage de son respect et de son estime.
Pour conclure la cérémonie, tous deux se recueillent entourés de plusieurs enfants dans la crypte du Panthéon où une plaque a été apposée sur laquelle on peut lire. Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières, par milliers, refusèrent de s'éteindre. Nommées juste parmi les nations ou restées anonymes, des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes conditions ont sauvé des Juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. En 2022, 4206 Français ont été reconnus justes parmi les nations. Seule la Pologne en compte davantage, avec 7232. Le 1er juillet 2018, Simone Veil, qui avait tant œuvré pour leur reconnaissance, sera à son tour accueillie au Panthéon par le président Emmanuel Macron. Elle y est inhumée avec son mari Antoine, aux côtés de Jean Moulin, René Cassin ou Jean Monnet.
Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois. Moi, la nuit, le jour n'existent pas. On est bien loin de ça. Crois-moi,
c'était Gaëtan Roussel en duo avec Adeline Lovo sur les ondes de Radio SBS. On marque une très courte pause, messieurs, dames, et on se retrouve tout de suite avec un épisode de notre podcast « L'histoire cachée de l'Australie ». Dans ce premier épisode, Grégory Pless et l'historien Romain Fati s'intéressent aux tout premiers moyens d'échange employés en Australie à l'époque où ce n'était qu'une colonie naissante. Et le premier d'entre eux n'est pas une monnaie à proprement parler, mais du rhum. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie, le premier de cette nouvelle année 2025. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui, je suis sûr, vous intéressera tous, celui de la monnaie, l'histoire de la monnaie en Australie. Et comme d'habitude, eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory et bonne année à tous vos auditeurs.
Alors, l'histoire de la monnaie en Australie, elle est un petit peu particulière puisque La monnaie, justement, elle a pris des formes très variées, même si la colonisation a commencé assez tardivement en Australie. On n'a pas tout de suite eu des pièces et des billets. Mais avant de rentrer justement dans la période où ce sont les Anglais qui ont pris le contrôle du pays, je voulais savoir si au sein des différentes communautés aborigènes, est-ce qu'on sait si avant la colonisation, certaines utiliser des moyens d'échange qui soient autres que du troc, c'est-à-dire enfin des pièces ou je sais pas des coquillages, enfin des choses qui servaient vraiment à acheter et vendre des produits.
Alors des pièces, enfin de la monnaie au sens moderne du terme, monnaie fiduciaire, pièces, billets, non, il n'y a pas de traces archéologiques qui démontreraient que les populations aborigènes aient utilisé une monnaie telle qu'on la conçoit avant la colonisation. Cependant, il y a un système de troc très bien établi dans les communautés aborigènes et entre les peuples aborigènes, puisqu'il y en a de très très nombreux. Ça pouvait être du troc avec des outils, de la nourriture, des pigments également qui sont importants dans les cérémonies. Et comme vous l'avez souligné, les coquillages. Alors ça, c'est pas partout dans le continent parce qu'on n'a pas nécessairement accès aux coquillages très loin à l'intérieur des terres, mais ça permettait aux populations aborigènes de commercer entre elles, d'échanger entre elles et surtout d'entretenir des liens avec d'autres peuples, d'autres pays, hein, comme par exemple les côtes du nord de l'Australie avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Donc vous avez un système d'échange, de troc, et effectivement, les coquillages sont peut-être ce qui s'est rapproché le plus de ce que nous comprenons comme une monnaie.
Alors, c'est donc vraiment avec le début de la colonisation qu'apparaît la première monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et à l'origine, en 1788, eh bien, l'Australie, qui n'est pas encore l'Australie d'ailleurs, eh bien, est une colonie de l'Empire britannique. Et donc, c'est la livre anglaise qui est la monnaie officielle. Sauf que d'après ce que j'ai pu lire, des pièces et des billets, il y en a en fait assez peu en circulation. Il y a une pénurie constante. Et donc, le premier vrai moyen d'échange dans la colonie naissante en Australie, c'est le rhum. C'est vraiment de l'argent liquide, là, pour le coup.
Très bonne blague. Alors, oui, effectivement, avec la colonisation de la Nouvelle-Galles du Sud, qui est la première des colonies australiennes fondée en 1788, se pose la question de la monnaie. Donc, il y en a effectivement qui vient avec la première flotte. Et puis, la question, en fait, quand vous devez établir une colonie dans un nouveau pays, il y a une chose à prendre en considération, déjà la survie des personnes que vous transportez, la nourriture est très importante. Donc, si vous voulez importer des monnaies, n'est pas vraiment tout en haut de la liste des priorités. Si bien qu'il n'y en a pas assez. Et par ailleurs, la monnaie qui est importée est assez fréquemment utilisée pour payer des marchandises qui viennent par bateau. Donc, elle repart. C'est très compliqué de garder la monnaie dans la colonie au début de sa fondation. Et par ailleurs, il y a tout un tas de monnaies étrangères qui est en circulation. Donc c'est un petit peu un capharnaüm assez important. Et comme vous le soulignez, le rhum devient une monnaie d'échange. Alors le rhum, mais aussi en fait toutes sortes d'alcools distillés, parce que ça vous pouvez le produire sur place et vous pouvez facilement le transporter, enfin plus ou moins facilement. Il y a même, on aura peut-être l'occasion de faire un épisode sur cet épisode assez intéressant de l'histoire australienne. Il y a même la rébellion du rhum en 1808, où en fait vous avez un corps d'armée parce que l'importation des liqueurs, enfin des spiritueux, elle est contrôlée évidemment. Et vous avez un régiment qui en réalité met un peu la main sur ce commerce, en tire des profits considérables. Et quand le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud essaye de mettre de l'ordre là-dessus, eh bien, il est renversé. Donc, c'est le seul coup d'État militaire documenté en Australie, du fait justement de l'importance du contrôle du rhum pour payer des échanges. Et pas qu'entre particuliers, hein. Il y a des traces dans les archives de Nouvelle-Galles du Sud où le gouvernement s'est acquitté de dettes qu'il avait contractées envers tout un tas de personnes qui travaillaient pour lui, en les payant avec du rhum. Donc effectivement, le rhum est une monnaie d'échange.
Très bien. Alors, cette forme un peu originale de monnaie, elle est utilisée pendant quand même plusieurs années parce que, vous le disiez, enfin, ce problème de rétention des pièces de monnaie anglaises sur le territoire australien perdure pendant un bon moment. On utilise également, comme vous l'avez souligné, des monnaies issues d'autres pays. En fait, on fait avec ce qu'on peut, en gros. Et puis, la première véritable création de monnaie sur le territoire australien, c'est en 1813, c'est le gouverneur Macquarie. Et lui aussi, il emploie une méthode assez originale, puisqu'en fait, il va recycler des pièces issues d'un autre pays pour en faire des pièces australiennes. Vous pouvez nous expliquer concrètement comment il s'y est pris?
Oui, alors déjà je rappelle qu'effectivement, le rhum comme monnaie d'échange, c'est pas anecdotique, hein, ça dure quand même 2 à 3 décennies. Alors, il faut aussi contextualiser, c'est-à-dire qu'au tout début d'une colonie, vous n'avez pas tant à échanger finalement, puisque vous êtes encore dans une phase de colonisation, de mise en culture des terres, etc. Donc finalement, avec un peu de troc ici et là, vous pouvez vous en tirer. À mesure que votre économie se densifie et se complexifie, effectivement, il faut une monnaie pour simplifier les choses. Et puis parce que ça permet d'agrandir, en fait, d'augmenter l'économie. On pourra revenir là-dessus. Donc effectivement, en 1813, le gouvernement Macquarie se dit on ne peut pas continuer comme ça, il nous faut vraiment de la monnaie, il n'y en a pas assez qui arrive de livres sterling qui arrivent de Grande-Bretagne. Et donc, via les Anglais, enfin via les Britanniques, ils récupèrent ce qui s'appelle à l'époque le dollar espagnol. Alors, pour faire bref, c'est une monnaie qui est utilisée dans les colonies bientôt indépendantes, et donc ça posera des soucis aux Australiens, d'Amérique du Sud. Et il fait venir ces pièces et il les perce, tout simplement. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, auditeurs, se souviennent des anciens francs, quand ils ont été démonétarisés, pour les rendre nuls, en fait, ils ont été troués. Hein, certains d'entre vous se souviennent peut-être de petites pièces dans les porte-monnaies avec des trous à l'intérieur, ben c'est de ça dont il s'agit. Et donc, il fait importer ces dollars, il les perce, et la grande pièce trouée devient le holy dollar, le dollar troué, si vous voulez, et la petite pièce, dump, est conservée, parce que ça permet d'avoir une seconde monnaie d'échange inférieure. Donc, un certain nombre de petites pièces équivalent à une grande pièce, etc., etc. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en perçant ces dollars espagnols, ils peuvent plus être exportés, puisqu'ils n'ont plus de valeur pour les autres, puisque c'est un peu votre système à vous. Donc en fait, quand on parle de création de monnaie en 1813, oui et non. C'est-à-dire c'est plutôt un arrangement, un recyclage pour garder cet argent à l'intérieur de la colonie et éviter qu'il parte par bateau. Et la monnaie d'échange par bateau continue d'être soit la livre sterling quand elle est disponible, soit des marchandises, soit du troc en réalité.
Donc c'est vraiment ouais, la forme la plus rudimentaire de monnaie nationale. D'ailleurs, j'ai pu voir que, en fait, c'est encore quelques années plus tard, quand on commence à découvrir de l'or en Australie, donc plutôt vers le milieu du 19e siècle, couvre les premiers vrais ateliers de fabrication de monnaie en Australie. Alors que vous le disiez, jusqu'à présent, il y avait ces pièces trouées qui avaient été un petit peu recyclées pour l'usage local et qu'on continuait à utiliser des monnaies étrangères pour commercer avec le reste du monde et évidemment avec le Royaume-Uni.
Oui, ça, c'est très important de le rappeler. C'est avec la découverte de l'or que les choses commencent à changer. Et ça, c'est dans les années 1850. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les monnaies qui sont frappées à cette époque en Europe sont indexées sur une valeur qui est donnée, qui est accordée à des métaux, comme l'or, l'argent, le cuivre, par exemple. Donc, si vous voulez, on sait qu'une pièce d'or frappée a un poids en or, et ce poids correspond à une valeur fixe. Donc, un certain nombre de pièces, en or, en argent ou en cuivre, vont vous permettre d'acheter une valeur fixe. Ça stabilise les prix, ça permet d'accroître le commerce et la mobilité des biens, etc., etc. Et donc, avec le Gold Rush en Australie qui se passe quelques décennies après, vous avez la multiplication de monnaies frappées de différentes colonies australiennes, que ce soit la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, l'Australie occidentale. Et c'est très important, cette découverte d'or, et d'autres métaux, parce qu'elle permet justement de frapper monnaie en Australie par les Australiens, et c'est une monnaie qui est indexée sur la livre sterling britannique, ce qui fait que en fait les Australiens peuvent aussi maintenant exporter leur monnaie qui sera utilisée ailleurs aussi, enfin du moins les pièces qui peuvent être frappées ailleurs, qui sera utilisée dans d'autres colonies britanniques comme l'Inde par exemple. Donc ça permet vraiment à l'économie australienne de s'ouvrir, de stabiliser et de ne plus être dépendant de l'importation de monnaie.
On va s'arrêter ici pour le moment sur cette histoire cachée de la monnaie en Australie. Je vous invite à revenir dans quelques jours sur notre site internet ou sur la chaîne SBS French que vous trouverez sur toutes les plateformes audio pour écouter la suite de cette histoire. Elle sera publiée donc d'ici quelques jours.
Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plat rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living.
Une voix reconnaissable parmi toutes pour une chanson mythique, Intoxicated Man de Serge Gainsbourg. Allez, changement de décor, notre journaliste Audrey Bourget est partie à la rencontre d'Élise Pioche, fondatrice de Maison Balzac, une marque australienne avec de profondes racines françaises. Première partie de cette interview à retrouver en intégralité sur le site internet de SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Je suis avec Élise Pioche-Balzac, la fondatrice de la marque australienne Maison Balzac. Bonjour Élise et bienvenue dans le programme en français de SBS.
Merci beaucoup, bonjour, je suis ravie d'être là avec vous.
Élise, parlez-moi de votre parcours avant l'Australie. Je crois que vous avez grandi en France, à Béziers, et vous avez débuté votre carrière dans le milieu de la mode.
Oui, tout à fait. Donc, je suis née dans le sud, en Occitanie. On appelle ça le Midi. Et j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Une enfance très, très, très heureuse qui, même de nos jours, nourrit ma marque. Donc, vraiment une enfance lumineuse, sous le soleil, avec des parents aimants. Entourée de nature, pieds nus, beaucoup d'insectes autour de moi, beaucoup d'animaux, des voyages en Espagne, etc. Et puis à 18 ans, j'ai fait des études de lettres, d'abord une maîtrise de lettres modernes, avec un sujet autour de Jean Cocteau, qui cela aussi nourrit ma marque aujourd'hui. Et puis après des études universitaires, j'ai enfin assouvi ma passion pour la mode que j'ai depuis toute petite. Et c'était une évidence en fait pour moi et mes parents que j'étudie la mode. Donc je suis allée à l'Institut français de la mode à Paris et j'ai fait un master en management du textile et de la mode. Et là, j'ai vraiment découvert l'univers, mon univers rêvé. Je me pinçais en permanence en me demandant si c'était la réalité ou un rêve, tellement je baignais dans quelque chose qui était fascinant et simple, en fait, pour moi. Donc, voilà. Et en 2000, dans les années 2000, en fait, j'ai eu mon premier job dans la mode. Et quel job ? J'ai eu la chance de rejoindre le bureau de presse Hermès, au-dessus de la boutique du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Et je m'occupais du service de presse, donc dédié aux collections femmes, dans le collection mode femmes, dont le designer était Martin Margiela, un créateur belge que vraiment je vénérais. Donc vraiment tout ça s'est mis en place de façon fabuleuse. Et ce qui me fait dire que j'ai toujours eu une bonne étoile, en fait, parce que tout ce dont je rêve se réalise souvent, donc je me trouve très chanceuse. Mais voilà, ça c'est la première partie de ma vie, une enfance dans le sud, des études de lettres, un diplôme dans la mode, Paris, et puis en 2004, Paris-Sydney, en
Pourquoi
fait Paris-Melbourne, voilà.
Pourquoi l'Australie?
Alors en fait, j'avais passé 4 ans à Paris, loin de mon sud, et je ne parlais qu'à des Français, en français, je ne parlais que de mode et de luxe, et j'ai trouvé ça assez répétitif, assez redondant, et je pense que tout au fond de moi, j'ai un esprit extrêmement aventurier. J'aime repousser mes limites, j'adore me lancer dans l'inconnu, j'adore faire des découvertes en fait, et avoir des surprises, en général bonnes. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben en fait, là, il faut que tu apprennes l'anglais, Élise, et que tu t'exportes. Donc, c'était vraiment pour la langue au départ. ce qui, je pense, c'était vraiment juste un petit prétexte. Et parce que quand on y pense, ben, l'anglais, j'aurais pu l'apprendre à Londres, à New York, à Vancouver. Enfin, j'avais beaucoup d'autres pays beaucoup plus proches, mais je pense que c'est là qu'en fait mon esprit aventurier a vraiment pris le pas. Et j'ai eu envie d'aller aussi loin que possible, en fait, de l'autre côté de la Terre. Et finalement, je me rends compte que l'Australie, c'est si je voulais aller au-delà, je revenais en France, en fait. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, comme je l'ai dit, je suis partie toute seule avec ma petite valise, sans connaître personne, à l'âge de 28 ans. Et j'ai choisi Melbourne en premier. Et je suis ravie de l'avoir fait parce que, finalement, je trouve que c'est une ville qui est à mi-chemin entre l'Europe et l'Australie, alors que Sydney, c'est très australien. Et donc, je suis tombée en amour pour la ville, pour Melbourne. Et puis, très vite, j'ai retrouvé un job chez Hermès, justement, sur Collins Street, dans la boutique. Donc, je connaissais tous les produits, je me sentais quand même un petit peu chez moi. Et puis de là, boule de neige, voilà, j'ai travaillé encore dans la mode après ça, directrice de boutique, puis acheteuse. Mais je vais vous laisser aller à votre rythme, dites-moi.
Et donc, vous êtes allé dans quelque chose d'un peu différent quand vous avez fondé Maison Balzac en 2012. Comment vous est venue l'idée? Qu'est-ce qui vous a inspiré?
Oui, mais en fait, en 2012, à ce moment-là, j'étais en Australie depuis, 2004. Donc, ça faisait 8 ans que j'étais en Australie. Après Melbourne, donc je m'étais installée à Sydney pour un job extraordinaire, donc acheteuse de mode pour une chaîne de boutiques très très haut de gamme qui vendait beaucoup de mode française, en passant de Chloé à Dries Van Noten, Isabelle Marant, Vanessa Bruno, etc., APC. Et là, en fait, ça m'est d'un coup, je me suis dit, mais attends, Élise, ça fait 8 ans que tu es en Australie, alors que tu es profondément française. Ma famille me manquait, mon pays me manquait. Et je me suis dit, de toute façon, là, quand on est à ce point nostalgique de ses racines, il n'y a que 2 choses que l'on puisse faire. La première, c'est retourner au pays. J'aurais pu le faire. J'étais vraiment très proche de le faire. Ou alors, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas plus rigolo d'amener mon pays en Australie? Et c'est là, en fait, que j'ai décidé de recréer tout ce qui faisait que mes racines étaient heureuses, etc. Et j'ai commencé, donc j'ai trouvé le nom Maison Balzac. Donc Maison parce que je savais que ma marque allait être dédiée à l'intérieur, à la maison. Et Balzac, c'est le nom de ma famille du côté de ma maman. Donc Janine et André Balzac, mes grands-parents, ma mère Nadine Balzac. Et je trouvais que c'était un nom très vénérable, très beau, très très chic, et puis surtout avec l'étiquette de Honoré de Balzac du 19e siècle, l'écrivain, le Shakespeare français. Et donc j'ai commencé Maison Balzac avec 5 bougies parfumées, et chaque bougie, chaque parfum recréait un moment précis de mon enfance quand j'avais 8 ans, un dimanche. C'était tous les dimanches, c'était à peu près pareil, et on avait cette tradition française ou peut-être familiale de déjeuner tous en famille le dimanche midi. On se mettait à table, on était 10 avec ma famille éloignée, mes 2 frères, mes parents, mes oncles, ma tante, ma cousine, mes grands-parents. Et alors on mettait une belle nappe avec une belle table, entrée, plat, dessert, des petits plats mijotés, des bougies, on parlait, on riait. Et après le repas, on allait se balader en forêt. Puis le soir, ma grand-mère me faisait couler un bain à la lavande. Et en fait, j'avais la nostalgie de ces moments précis. Donc ma marque, en fait, c'était les premiers piliers pour, étendre et revivre mon enfance, en fait, à l'infini. Et ça a vraiment marché. Je pense que toutes mes intentions, mes émotions que j'ai mises dans la marque, les gens, ça, ils le sentent, en fait. Et moi, quand je vends, par exemple, une bougie qui sent le bain à la lavande que ma grand-mère me faisait tous les dimanches soirs, ben, je sais qu'il y a certains clients qui l'ont acheté pour leur mariage. C'est devenu leur souvenir de mariage. Et en fait, je pense que moi, ce que je fais, c'est que je fabrique des souvenirs et des émotions au-dessus des miennes, en fait. Ça part des miennes et en fait, c'est pour chacun, en fait, se l'approprier et fait sa propre histoire. Mais voilà, en 2012, c'était vraiment par nostalgie pour mon passé, pour ma famille que j'adorais. Et voilà, et en fait, au lieu de revenir, je suis restée, mais j'ai recréé mon petit bout de France à Sydney. Et 12 ans plus tard, bah, mes 5 produits, c'est devenu 300. Je ne vendais que dans 5 boutiques. Maintenant, on est dans 180 boutiques dans le monde entier. J'étais toute seule pendant des années à créer mon petit univers balzacien. Et maintenant, on est une équipe de 20. Enfin, vraiment, ça a été un parcours extraordinaire qui, je pense, n'aurait pu arriver qu'en Australie.
C'est très impressionnant. Donc, à la base, une ligne de bougies, qu'est-ce que vous offrez maintenant? Qu'est-ce que c'est maintenant Maison Balzac?
Oui, mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé avec 5 bougies et je pense que c'est à peu près pour les 5 premières années, je n'ai fait que grandir ma collection de bougies. Donc, je suis arrivée peut-être à une dizaine et je faisais beaucoup de collaborations avec des artistes qui me plaisaient, des fleuristes, des peintres, des chefs cuisiniers, des designers de mode, etc. Donc, j'assimilais leur monde et le mien et on créait des choses vraiment assez fascinantes. Et puis, en fait, depuis le début, moi, je me disais, les bougies, ce n'est qu'un début. Et je veux vraiment étendre l'univers Maison Balzac dans chaque pièce d'une maison. Et en fait, la première pièce à laquelle je me suis attelée, c'était dans la chambre, en fait. Et je me suis dit, bien, le soir, je sais que la nuit, ma grand-mère, elle me mettait une petite carafe sur ma table de chevet avec un verre. Cette carafe était coiffée d'un verre au-dessus du goulot pour que aucune poussière ne tombe à l'intérieur. Et je me suis souvenue de ça et je me suis dit, ben voilà, mon deuxième objet Maison Balzac, ça va être une carafe avec un verre. Donc j'ai dû trouver un souffleur de verre avec les bonnes couleurs, les bonnes proportions, et donc je faisais des petits dessins, et même à ce jour je fais encore mes petits dessins très naïfs que j'envoie à mes fabricants et ils arrivent à traduire l'esprit, ils me donnent des conseils et on arrive comme ça en partenariat à créer des objets qui sont simplissimes à la base mais qui ont toujours une touche soit française, soit humoristique, etc. Et cette première carafe donc, que j'ai lancée en 2017, je m'en souviendrai toujours, c'était dans une chambre d'hôtel à Sydney, ça s'appelait The Eau Claire Hotel, qui n'existe plus. Et j'avais mis sur une petite table basse mes 5 carafes alignées. Autour, il y avait mes bougies. J'avais aussi, à ce moment-là, j'avais fait une collaboration avec le plus ancien fabricant de plaids en mohair et en laine de France, s'appelle Brun de Vientiran, qui sont basés pas très loin de chez moi, dans le sud de la France, à Lille-sur-la-Sorgue. Et donc, j'avais fait une toute petite collection de plaids en laine, parce qu'aussi, je me souvenais que dans ma famille, le soir, on se mettait sur les genoux un petit plaid quand on prenait le thé. Enfin, vous voyez, c'était des petits moments comme ça. Et donc, je recréais par extension toutes ces images que j'avais dans ma tête. Quels sont les objets que je vois quand je ferme les yeux qui faisaient qu'on touche à l'essence, en fait, du bien-être ou du confort? Pourquoi on se sent bien dans ce salon? Pourquoi on se sent bien dans cette chambre? J'essaie d'articuler cela avec des objets, et tous ont une histoire véridique reliée à mon enfance ou à mon art de vivre à la française avec mes parents et mes grands-parents. Et donc, en 2017, ces carafes, ces verres et ces plaids, ça a été un succès instantané. Les premiers acheteurs me disaient bon, on voit pas trop le lien entre des bougies et des verres, mais pourquoi pas? Et en fait, pour moi, c'était une évidence. Et je sais que pour certaines personnes, chaque fois, ils me disent, mais quoi, maintenant tu fais des couverts en argent, maintenant tu fais des assiettes. Et pour moi, la logique que j'ai derrière cela, c'est je rentre dans la maison Balzac, je regarde tout ce qu'il y a autour de moi et je le traduis en objet de façon moderne, contemporaine, avec des fabricants que je source moi-même. Donc moi, ça fait tout à fait sens. Il y a toute une logique et toute une histoire et c'est infini, je peux continuer. Ça n'a pas de fin. Voilà, j'ai pas encore assouvi tous mes rêves balzaciens, ça c'est sûr.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Todo está bien. Ces mots que tu me chantes, todo está bien. Que la terre et le ciel rechantent-les-moi encore.
Chanteur et joueur de tennis, c'était bien sûr Yannick Noah avec son titre Todo está bien. Pour terminer cette édition, on s'intéresse aujourd'hui à l'importance de comprendre la diversité culturelle des peuples autochtones. C'est évidemment essentiel pour interagir avec les aborigènes et insulaires du détroit de Torres et pour construire des relations significatives. Retrouvez ce sujet, il est signé Yumi Oba et Bertrand Tougandamé.
La riche diversité des peuples autochtones d'Australie est un aspect captivant, défiant la conception erronée selon laquelle tous les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres appartiennent à un groupe homogène. En réalité, les peuples autochtones représentent une mosaïque de cultures, de langues, de modes de vie et de structures de parenté. Dans cet épisode d'Australia Explain, nous allons voir pourquoi comprendre et célébrer cette diversité remarquable est non seulement enrichissant, mais aussi essentiel pour pouvoir interagir avec les communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres et tisser des liens authentiques et significatifs. Les peuples autochtones d'Australie entretiennent un lien profond avec leur terre ou leur pays, ce qui est un élément fondamental pour leur identité et leur sentiment d'appartenance. Pour comprendre pleinement cette connexion, il est nécessaire de reconnaître la diversité qui existe au sein des communautés des Premières Nations. Tante Munya Andrews est une aînée aborigène du pays de Bardi, dans la région de Kimberley en Australie occidentale. Elle affirme que l'une des meilleures façons de commencer est la carte autochtone de l'Australie.
We invite people to take a look at that because there's about 500 nations that are on that map. So just at a glance, people can just see how diverse we are here in Australia. People don't realize to look at that and go, oh, I didn't realize there were so many groups, which there are so many nations, of course. Each nation has its own language or shares a common language with another. But so that's an awful lot of languages, an awful lot of nations.
Tante Munya, auteure, avocate et co-directrice d'Evolve Communities, souligne l'importance de comprendre qu'une taille unique ne convient pas à tous, surtout lorsqu'il s'agit d'interagir avec les peuples autochtones et de construire des relations significatives.
It's not a case of one size fits all. You've got to be aware of this regional and local diversity and shape your policies and frameworks and programs around that diversity.
Carla Rojas est une alliée autochtone qui travaille étroitement avec Tante Munya. Elle confirme que cette connaissance de la diversité est cruciale pour comprendre l'histoire partagée de l'Australie et pourquoi les écarts entre les peuples autochtones et non autochtones persistent encore aujourd'hui.
In Australia was first colonized and ongoing. It's the lack of awareness of this diversity that has been the core to our problem, many of our problems that exist now. Seeing Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as one homogenous group and not acknowledging this rich diversity has meant that, for example, the missions, people have been lumped together, they weren't allowed to speak language, and in some cases people may not have been able to speak to each other because they had different languages.
Selon la nation à laquelle vous appartenez, la culture, la langue, le mode de vie et les structures de parenté diffèrent tous, même l'art, comme le souligne Tante Munya.
I can tell just looking at Aboriginal art. I know exactly which area of Australia it comes from. It's that particular. Most people associate dot painting with Aboriginal culture, but that's just one nation. When you look to Bardi people, my people, we're saltwater people, our art is very much similar to other islanders around the world in that they're geometric paintings which depict the waves and it's not dot painting at all.
Tante Munya souligne par ailleurs que les peuples autochtones sont des experts en matière de multiculturalisme.
People think that it's a new thing, but my people have been dealing with multiculturalism for thousands of years. We've learned to interact with the other Aboriginal groups, learn to speak some of the different languages, but we've had to learn to interact with people that have different customs, different protocols and whatnot. So I always say to people, we are the experts in multiculturalism. And I think government especially needs to come more to First Nations peoples to show them how to do it better.
La docteure Mariko Smith est une femme Yuin avec une ascendance japonaise qui est conservatrice de musées, sociologue visuelle et historienne. Elle explique qu'elle a rencontré de nombreux défis en grandissant en raison du manque de sensibilisation généralisée à la diversité inhérente aux communautés des Premières Nations.
Being someone who visibly looks of, you know, not white and also Asian as well, it was one thing to be seen as Asian in a predominantly white community and all the sort of racism that comes with that. But then when I say that I'm also Aboriginal, that I think takes it to the next level in terms of scrutiny and also discrimination.
Elle dit que de nombreux Australiens ont encore aujourd'hui cette image et ces idées très stéréotypées des peuples autochtones.
There are particular stereotypes and narrow perceptions about what is Aboriginality, who is an Aboriginal person. People are influenced very much around, you know, historical works and books and things that focus on, for example, skin color and sort of level of civilization. People who think that they haven't met an Aboriginal person in their life before, but I believe chances are they would have, it's just, you know, they wouldn't have conformed to people. people's stereotypes and conceptions.
Le Dr. Smith dit que l'Australie doit reconnaître et embraser cette diversité pour être vraiment inclusive.
Need to break out of these sort of stereotypes where they're so limiting. If you're thinking about, you know, Aboriginal people in very sort of simplistic ways, then there's only really simplistic solutions. Such a complex and diverse concept that requires comprehensive and diverse solutions and thought as well. So there's a lot of misunderstanding, lack of interest, feeling uninformed in the community.
Selon Carla Rojasa, ne pas comprendre cette diversité peut induire des erreurs.
When we don't understand that diversity, that's when, as an ally, for example, we can make mistakes. That's when we can say something that could be very hurtful and based on a stereotype, something that could be potentially racist, but generally something that's hurtful and it's a barrier to understanding.
Je recommande de commencer par regarder la carte et de se renseigner sur le pays sur lequel on se trouve et sa culture, tout comme on le ferait si on voyageait à travers l'Europe.
Like you probably would do at home or any time you're traveling, is find out about, oh, whose country am I traveling through? Learning more about the languages in that area. And it's quite easy to do. You can just do an internet search or something to find out, you know, whose country, or you can have the map of Aboriginal Australia. So when you're traveling through Australia, just say you were going from anywhere on the coast, on the east coast. If you're traveling more than 2 hours, say, from Sydney, then you're passing through a different country.
Tante Mounia précise que le Conseil local des terres aborigènes et votre administration locale peuvent également vous fournir un aperçu plus approfondi.
Various land councils around the country, they're a good starting point to, you know, make contact with them and ask questions of them as well. They're very good at letting people know. And interestingly, so are just your local councils as well. They've really come on board now, and most of them are familiar with who are the traditional owners and can at least direct you to the right people.
Tante Mounia ajoute que c'est aussi une question d'auto-éducation.
Learn as much as you can. Engage especially with First Nations peoples. There's no need to be afraid. Just introduce yourself. Go along to community events. As people begin to see you as a regular visitor, you'll find that they'll open up and may start calling you by your names once you've introduced yourself. But it's just like being brave enough to take that step to get to know your First Nations peoples and develop friendships. It does take time.
Mondos et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme s'il en pleuvait, un titre de Meira Andrade. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même fréquence, même heure. Passez une excellente journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.